Moi et la suprématie blanche de Laila F. Saad, traduit de l'anglais par Françoise Smith et publié chez Époque Épique. Le sous-titre est « Reconnaître ses privilèges, combattre le racisme et changer le monde ». Je m'appelle Laila et pendant ces 28 prochains jours, au moins, je serai votre guide. Au cours de ce voyage, je vous aiderai à explorer et révéler votre relation au suprémacisme blanc. Ce livre constitue un outil antiraciste unique, conçu pour aider les détenteurs de privilèges blancs à comprendre et assumer leur complicité avec le système tyrannique de la suprématie blanche. Il doit leur permettre de se responsabiliser afin de démanteler les manifestations de ce système, à la fois en eux et au sein de leur communauté. Pour Sam, Maya et Mohamed, merci de m'aimer, de croire en moi et de m'inciter à être une bonne ancêtre. Je vous aime, ce livre est pour vous. Pour façonner Dieu avec sagesse et prévoyance, pour que ton monde, ton peuple, ta vie en bénéficie, envisage les conséquences, nuis le moins possible, pose des questions, cherche des réponses, apprends, enseigne. Semence de la Terre, le livre des vivants 1, verset 43, Octavia Butler, la parabole des talents. Avant-propos par Robin DiAngelo. C'est bon, dites-vous. J'ai compris. Et maintenant, je fais quoi? Je suis une éducatrice antiraciste blanche et c'est systématique. Je fais quoi? Est la question que me posent le plus fréquemment les participants blancs à la fin de mes conférences. Poser cette question peut sembler sensée dès lors que l'on s'aperçoit de sa complicité avec la suprématie blanche. Elle n'en est pas moins problématique. D'abord et avant tout, parce que je la trouve hypocrite. J'anime des ateliers d'éducation à l'antiracisme depuis 25 ans, et j'ai pu constater que la plupart des Blancs ne veulent pas vraiment savoir comment combattre le racisme, si cela doit leur coûter, ou les mettre mal à l'aise. En effet, poser cette question permet souvent d'atténuer ou d'esquiver un sentiment de malaise racial. Alors que, en tant que Blanche, le statu quo raciste est confortable pour moi pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en revanche, le remettre en question ne l'est pas. C'est pourquoi une mobilisation de chaque instant, et sur le long terme, constitue un aspect crucial du travail que nous devons fournir en tant que Blancs. Se précipiter vers des solutions, surtout quand on vient à peine de commencer à réfléchir aux problèmes de manière critique, revient à éluder la réflexion et le travail personnel nécessaire, et nous évite de réfléchir à notre propre complicité. En réalité, le malaise racial est inhérent à une véritable analyse de la suprématie blanche. En évitant ce malaise, nous protégeons le statu quo raciste. En outre, nous nous sentons autorisés à rejeter l'information si nous ne pouvons obtenir la réponse simple que nous exigeons. Elle ne nous a pas dit quoi faire. Il est particulièrement arrogant d'exiger que les personnes noires autochtones et de couleur nous les fournissent. Fais tout le travail, prends tous les risques, je vais recueillir les fruits de ton labeur, sans lever le petit doigt et sans prendre le moindre risque personnel, disons-nous en substance. Et qu'arrive-t-il quand on n'apprécie pas les réponses obtenues parce qu'elles ne sont ni rapides ni simples et qu'elles nous dérangent? Quand elles remettent en cause l'image d'individus ouverts, progressistes, vierges de tout conditionnement raciste que nous avons de nous-mêmes? Les personnes noires autochtones et de couleur en ont maintes fois fait l'expérience. Quand nous ne sommes pas d'accord avec les réponses que nous avons exigées d'obtenir, nous sommes trop souvent aptes à les rejeter. La suprématie blanche est sans doute le système social le plus complexe de ces derniers siècles. S'il suffisait d'être gentil et de continuer à sourire pour y mettre fin. Mais ce n'est pas à coup de réponses faciles que nous y parviendrons, évidemment. Aux Blancs qui me sollicitent, je demande à mon tour. Comment pouvez-vous être si mal informé? À l'ère de Google et des réseaux sociaux, Internet regorge d'informations pour combattre le racisme, et les personnes noires autochtones et de couleur nous disent ce dont elles ont besoin depuis très longtemps. Pourquoi ne sommes-nous pas renseignés par nous-mêmes jusque-là? Pourquoi n'avons-nous pas fait de recherche sur ce thème, comme nous l'aurions fait pour n'importe quel autre sujet qui nous intéresse? Poser ces questions aux Blancs permet de les tirer de l'apathie que, à mon avis, la plupart d'entre eux en sont venus à éprouver à l'égard de la suprématie blanche. Mais c'est aussi une question sincère. À vrai dire, si nous faisons la liste des raisons pour lesquelles nous sommes désemparés, nous obtiendrions un guide nous permettant d'avancer. Rien dans ce guide ne serait simple ou facile à changer, mais il laisserait espérer un changement. Voici le genre de liste que nous pourrions obtenir. Je n'ai pas été informé sur le racisme. Je ne parle pas de racisme avec d'autres Blancs. Je ne parle pas de racisme avec les personnes de couleur de mon entourage. Il n'y a pas de personne de couleur dans mon entourage. Je ne veux pas me sentir coupable. Cela ne m'intéressait pas assez pour que je me renseigne. Laila F. Saad nous propose un plan d'action pour répondre à chacun des points évoqués ci-dessus, à toutes les problématiques que j'ai soulevées et bien d'autres. Ce livre est un cadeau, fruit de la compassion d'une femme noire exceptionnelle, prête à vous guider dans une analyse de fond de votre conditionnement racial blanc et vous permettre de vous en libérer. Moi et la suprématie blanche est une nouvelle ressource extraordinaire, un acte d'amour pour les blancs prêts à faire coïncider leur prétendue valeur, l'égalité raciale, avec leur pratique réelle, l'action antiraciste. Laila F. Saad a répondu à la question de manière claire et accessible. Désormais, dès qu'un blanc me demandera quoi faire, je lui conseillerai, entre autres, de faire les exercices de ce livre. Première partie. Bienvenue. Et si on se mettait au travail? Chers lecteurs, chères lectrices, qu'avez-vous ressenti en lisant le titre de ce livre pour la première fois? Avez-vous été surpris, déconcerté, intrigué, mal à l'aise? Tout cela à la fois, peut-être. Je veux commencer par vous rassurer. Il est parfaitement normal d'éprouver tous ces sentiments et d'autres encore. Ma méthode est simple et claire, mais elle n'est pas facile. Bienvenue, et si on se mettait au travail? Je m'appelle Leïla et pendant ces 28 prochains jours, au moins, je serai votre guide. Au cours de ce voyage, je vous aiderai à explorer et révéler votre relation au suprémacisme blanc. Ce livre constitue un outil antiraciste unique, conçu pour aider les détenteurs de privilèges blancs à comprendre et assumer leur complicité avec le système tyrannique de la suprématie blanche. Il doit leur permettre de se responsabiliser afin de démanteler les manifestations de ce système à la fois en eux et au sein de leur communauté. Le principal moteur de mon travail est le désir ardent de devenir une bonne ancêtre, utile pour les générations futures. Mon objectif, c'est de contribuer à amorcer le changement, à faciliter la guérison et à semer l'espoir de nouvelles perspectives pour ceux qui viendront quand je ne serai plus là. Ce livre répond à ce vœu. C'est une ressource qui, je l'espère, vous aidera à accomplir le travail aussi bien intérieur qu'extérieur nécessaire pour devenir vous aussi un bon ancêtre et laisser le monde en meilleur état que votre arrivée. Aucun des fondateurs de la suprématie blanche n'est plus vivant aujourd'hui, mais ce système est renforcé et perpétué par tous les détenteurs de privilèges, que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas. Je souhaite que ce livre vous aide à vous interroger, à remettre en cause et à démanteler ce système qui a fait souffrir et coûter la vie à tant de personnes noires, autochtones et de couleur. À l'origine de cet ouvrage, il y a eu un défi Instagram gratuit de 28 jours, qui est ensuite devenu un livret PDF gratuit téléchargé par près de 90 000 personnes dans le monde. Aujourd'hui, vous avez entre les mains ce livre qui, je l'espère, deviendra un fidèle compagnon que vous transporterez dans votre sac à dos antiraciste symbolique. Il est à la fois une ressource pédagogique et un appel à l'action. Grâce à lui, vous allez élargir votre compréhension du racisme et de la suprématie blanche, mais surtout vous allez œuvrer personnellement à les déconstruire. Ces pages vont vous permettre de porter un regard lucide sur les multiples facettes de ce système et la façon dont il opère de manière à la fois subtile et directe chez vous et chez les autres. C'est comme si on vous tendait un miroir pour que vous puissiez examiner en profondeur votre connivence avec un système intentionnellement conçu pour vous faire bénéficier de privilèges immérités aux dépens des personnes noires, autochtones et de couleur. Il s'agit donc d'un outil destiné à celles et ceux qui sont prêts à accomplir ce travail, à changer le monde, en amorçant d'abord le changement en eux. Nous vivons un moment historique. Beaucoup de libéraux blancs progressistes aiment à croire que nous sommes dans une ère post-raciale. Mais la vérité, c'est que le racisme continue à prospérer. Les personnes noires, autochtones et de couleur souffrent au quotidien des effets du colonialisme, à la fois historique et contemporain. En Occident, le nationalisme d'extrême droite islamophobe voit croître sa popularité, et le racisme anti-noir perdure partout dans le monde. On pourrait penser que nous assistons aujourd'hui à la réémergence du racisme et de la suprématie blanche, mais en réalité, ils n'ont jamais disparu. Et s'il est vrai que certains événements récents, l'élection présidentielle américaine de 2016 par exemple, ont sûrement remis ces questions sous le feu des projecteurs, celles-ci ont toujours été là. Les personnes de couleur vivant dans ces sociétés et des sociétés et des lieux dominés par les blancs n'ont jamais cessé d'être victimes de discrimination, d'inégalité, d'injustice et d'agression. Les détenteurs de privilèges blancs sont plus nombreux que jamais à être confrontés aux débats concernant les dynamiques raciales et au vocabulaire de la justice sociale. Ils découvrent alors que leurs privilèges les ont protégés, leur évitant d'avoir à comprendre à quoi ressemble la vie des personnes noires, autochtones et de couleur, et de voir qu'ils ont volontairement ou non blessé ces mêmes personnes par leurs agressions raciales. Ce livre permet de changer la donne. Il peut vous ouvrir les yeux en vous poussant à dire la vérité. Ce livre ne concerne pas ces blancs racistes là-bas, non. Il vous concerne vous. Il est important de comprendre que le travail de fond proposé ici appuie là où cela fait mal, qu'il est exigeant, intime, aussi déchirant qu'enrichissant. Il risque de vous bousculer, comme vous ne l'avez jamais été jusqu'ici. Mais les temps sont difficiles, la tâche est de taille. Et pour commencer, vous devez être honnête avec vous-même, vous instruire, prendre conscience de ce qui se passe vraiment, et comment vous vous en rendez complice, et accepter d'être mal à l'aise en mettant en cause vos modèles raciaux fondamentaux. Si vous êtes prêt et prête à le faire, et si nous nous engageons tous à faire le travail qui nous incombe, nous avons une chance de créer un monde et un mode de vie plus en accord avec ce que nous désirons pour nous-mêmes et pour autrui. Ce travail semble accablant, intimidant et ingrat. Je ne vais pas vous mentir, c'est le cas. Vous serez accablé en découvrant que vous avez intériorisé la suprématie blanche au plus profond de vous. Vous serez intimidé en comprenant que ce travail exigera de véritables bouleversements dans votre vie. Il vous paraîtra d'autant plus ingrat que personne ne se précipitera pour vous remercier de l'avoir accompli. Mais si l'amour, la justice, l'intégrité et l'égalité font partie de vos valeurs, alors vous savez que ce travail est nécessaire. Si vous voulez devenir un bon ancêtre, vous savez que ce travail est l'un des plus importants de votre vie. Vive la justice, pas la facilité. Laila. Quelques mots à mon sujet. Comme nous allons passer une assez longue période ensemble à faire un travail de fond pénible, j'estime qu'il est important que vous me connaissiez un peu, moi, votre guide, avant de commencer. La première chose à savoir à mon sujet, c'est que je me situe à l'intersection de différentes identités et expériences. Je suis une femme noire. Pour être plus précise, je suis une femme noire originaire d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient. Je suis musulmane. Je suis citoyenne britannique. Je vis au Qatar. Je m'exprime, écris et enseigne à l'intention d'un public international. Mes parents ont émigré vers le Royaume-Uni depuis Zanzibar et le Kenya dans les années 1970, et c'est là qu'ils se sont rencontrés et se sont mariés. Mes deux jeunes frères et moi sommes nés et avons passé les premières années de notre enfance à Cardiff, au pays de Galles, avant de déménager à Swindon, en Angleterre, puis à Doha, au Qatar, où je vis toujours. Mon père, qui approche aujourd'hui de la retraite, a passé sa carrière dans la marine marchande à faire le tour du monde. Au retour de ses voyages, il nous rapportait des cadeaux et des histoires des pays lointains où il se rendait. Ce qui est important, c'est qu'il nous a inculqué, à mes frères et moi, la philosophie que nous étions des citoyens du monde. L'idée qu'il n'y a aucun endroit où nous ne soyons chez nous est celle de ne pas se limiter aux définitions ou aux étiquettes réductrices dont on tente de nous affubler, sont encore ancrées en moi aujourd'hui. Ma mère, une femme incroyable, a endossé la tâche herculéenne de jouer le rôle de deux parents auprès de mes frères et moi pendant les longues absences de mon père. Elle s'est toujours attachée à créer chez nous un environnement bienveillant, nous permettant de cultiver notre identité culturelle et de pratiquer nos croyances religieuses. Le socle d'amour qu'elle a construit pendant notre enfance est toujours aussi solide aujourd'hui. Et pourtant, dès que nous sortons de chez nous, que nous allions à l'école, regardions la télévision, entrions en contact avec le monde extérieur, nous nous heurtions à la suprématie blanche. Tous les jours, par le biais de petits détails, et d'autres pas si petits, on nous rappelait notre différence. Nous valions moins que les détenteurs de privilèges blancs. Je peux compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai été victime d'un racisme flagrant. En revanche, celles où je l'ai ressenti de diverses manières subtiles au quotidien sont innombrables. Et ces messages indirects, le fait d'être considéré un peu différemment par les professeurs, de rarement voir les personnages de fiction ou des personnages médiatiques qui me ressemblent, de comprendre que je devais travailler beaucoup plus dur que mes camarades blancs pour être traité de la même façon, de m'apercevoir que mes besoins ou désirs n'étaient jamais une priorité. Pourquoi ne trouvais-je jamais de fond de teint correspondant parfaitement à ma carnation, alors que mes amis blancs y arrivaient toujours? On formait une image indélébile dans mon esprit. Une image qui m'a appris ceci. Les filles noires comme moi ne comptent pas dans un monde blanc. Je vais passer le reste de ma vie à démolir cette image et en dessiner une nouvelle qui reflète la vérité. Les filles noires comptent. Partout. Au cours de ma vie, j'ai vécu sur 3 continents. L'Europe, l'Afrique et l'Asie. J'ai passé un peu plus de la moitié de ce temps hors du monde occidental, ce qui ne m'a pas empêché de subir l'impact de la suprématie blanche. Je veux être franche. Bien que femme noire et musulmane, je suis très privilégiée. Je n'habite pas dans une société suprémaciste blanche. Je pratique la religion d'État du pays où je vis. Je bénéficie de privilèges socio-économiques et éducatifs. Je suis cisgenre, hétérosexuel, valide, neurotypique. N'en ayant pas fait l'expérience, je ne puis m'exprimer sur la souffrance abyssale que le racisme fait subir aux Noirs descendants d'esclaves de la diaspora. Vivant au Moyen-Orient, je ne suis plus directement exposé au racisme institutionnel que connaissent mes jeunes frères, ma nièce et mon neveu, qui vivent au Royaume-Uni. Cependant, j'ai grandi moi aussi en tant que musulmane noire dans une société majoritairement blanche et chrétienne, et cela a eu un impact négatif sur mon épanouissement et mon identité. En tant qu'adulte, je suis quotidiennement exposé au suprémacisme blanc sur Internet, où plus de 50% de la population mondiale passe son temps, et où je travaille. Je partage mon travail avec un public international. La majorité de mes lecteurs et de mes auditeurs de mon podcast vivent aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Par conséquent, je suis confronté à la fragilité blanche, qui va inévitablement de pair avec mon statut de femme noire musulmane qui a des choses à dire. Le fait de ne pas vivre dans un pays occidental ne m'empêche pas de me faire insulter par email ou sur les réseaux sociaux à cause de mes idées. Pourquoi vous, Layla? Vous demandez-vous peut-être. Alors que je ne vis pas dans une société dominée par les blancs et que mes ancêtres n'ont pas subi les horreurs de l'esclavage, pourquoi ai-je décidé d'entreprendre l'écriture de ce livre et de rendre ce travail possible? Pourquoi le démantèlement de la suprématie blanche m'importe-t-il autant? Il m'importe parce que je suis une femme noire. Ma démarche trouve son origine dans la douleur et la fierté que me procure mon identité de femme noire. Il m'est pénible de savoir comment les personnes noires, autochtones et de couleur, comme moi, sont vues ou traitées à cause de la couleur de leur peau. En même temps, je suis très fier d'assumer pleinement mon identité noire et d'aider d'autres personnes à en faire autant en démantelant le système qui les entrave. J'accomplis ce travail parce que la suprématie blanche a eu un impact négatif sur la perception que j'ai de moi, la perception que le monde a de moi et la façon dont il me traite. J'accomplis ce travail parce que la suprématie blanche aura un impact négatif sur mes enfants et mes descendants, leur perception d'eux-mêmes, la perception que le monde aura d'eux et la façon dont il les traitera. J'accomplis ce travail parce que j'appartiens à la famille mondiale de la diaspora africaine. Et je souffre que, dans le monde entier, nous, les Noirs, soyons traités comme des êtres inférieurs à cause de la couleur de notre peau. J'accomplis ce travail parce que les personnes de couleur du monde entier méritent d'être considérées avec dignité et respect, ce dont la suprématie blanche les prive. J'accomplis ce travail car j'ai la possibilité de m'exprimer, et il m'incombe de le faire pour démanteler un système qui m'a porté préjudice et qui porte tous les jours préjudice à des personnes noires, autochtones et de couleur. J'accomplis ce travail parce que c'est ma vocation. Les concepts que j'ai rassemblés dans ce livre découlent de mon vécu, à la fois en tant qu'enfant et adulte, indépendamment des lieux où j'ai habité. Certaines expériences dont j'ai été témoin, un contexte historique, des repères culturels, des exemples tirés de documents de fiction ou de non-fiction, des médias viennent enrichir et approfondir ces concepts. Je ne suis qu'une femme noire musulmane qui contribue au travail titanesque que des personnes noires, autochtones et de couleur bien plus courageuses que moi, qui ont pris bien plus de risques que moi, l'accomplissent partout dans le monde depuis des siècles pour démanteler la suprématie blanche. Avoir le privilège d'apporter ma pierre à cet édifice collectif et international est un honneur et une leçon d'humilité. J'espère que ce livre, à la fois ouvrage éducatif et journal d'apprentissage, provoquera chez vous une profonde prise de conscience, vous poussera à l'action et que vous contribuerez à créer un monde débarrassé de la suprématie blanche. Qu'est-ce que la suprématie blanche? La suprématie blanche est une idéologie raciste fondée sur l'idée de la supériorité de ceux parmi les humains dont la peau est perçue comme blanche par les autres ou par eux-mêmes par rapport aux autres humains, et selon laquelle, par conséquent, les blancs devraient dominer le monde. La suprématie blanche ne se résume pas à une attitude ou à une façon de penser, puisqu'elle s'étend jusqu'au système et aux institutions structurées pour perpétuer cette domination. Dans le cadre de ce livre, nous allons nous contenter d'explorer et de dévoiler les aspects personnels et individuels la suprématie blanche. Cependant, comme les systèmes et les institutions sont créés et maintenus en place par d'innombrables individus, j'espère que plus les gens seront nombreux à entreprendre le travail intérieur proposé ici, plus cela aura une incidence concrète sur la suprématie blanche. Ce travail ne se limite donc pas à changer les apparences, mais aussi la réalité. De l'intérieur vers l'extérieur, une personne, une famille, une entreprise et une communauté à la fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi d'employer l'expression « suprématie blanche » dans le titre de cet ouvrage au lieu d'un terme plus modéré ou moins agressif comme « moi et le privilège blanc » ou « moi et les préjugés inconscients ». Vous auriez sans doute été moins gêné de l'acheter à la librairie, ou de le prêter à votre famille ou vos amis, c'est sûr. On croit souvent que cette expression n'est employée que pour décrire les extrémistes de droite et les néo-nazis. Cependant, l'idée que ces termes ne s'appliquent qu'aux soi-disant méchants est à la fois incorrecte et dangereuse, car elle renforce la croyance que l'idéologie suprémaciste blanche n'est soutenue que par un groupe marginal de blancs. Or, il est loin d'être marginal. Dans les sociétés et les communautés à dominante blanche, la suprématie blanche est le modèle prépondérant et la base sur laquelle les normes, les règles et les lois sont fondées. Beaucoup de blancs ne se reconnaissent pas dans ces deux mots, suprématie blanche. Ils estiment ne pas voir les choses ainsi et pensent plutôt que nous sommes tous égaux, qu'ils ne traitent pas les gens différemment en fonction de la couleur de leur peau. Ce que ce livre, un outil de profonde introspection, vous aidera cependant à comprendre, c'est que ce n'est pas vrai. La suprématie blanche est une idéologie, un modèle théorique, un système institutionnel et une vision du monde dont vous avez hérité en vertu de vos privilèges blancs. Je ne dis pas que la couleur de votre peau est intrinsèquement mauvaise, ni que vous devriez en avoir honte. Je dis qu'au cours de notre histoire, et encore à notre époque, les lois, les normes sociales et les institutions ont toujours été fondées sur le présupposé que la blanchité est intrinsèquement supérieure aux autres couleurs de peau. Les systèmes d'oppression ouvertement racistes, tels que l'esclavage, l'apartheid et la discrimination raciale à l'emploi, ont certes été interdits. Cependant, de manière subtile ou flagrante, les personnes noires, autochtones et de couleur continuent à subir discrimination, marginalisation, mauvais traitement, et même à être tués dans les communautés à dominante blanche, car le modèle suprémaciste continue à prévaloir dans ces sociétés. Il faut donc appeler un chat un chat. Il faut regarder la situation en face, voir comment la suprématie blanche, cette idéologie raciste, selon laquelle blanc égale meilleur, supérieur, plus valable, plus crédible, plus méritant et plus précieux, porte préjudice à tous ceux qui ne détiennent pas de privilèges blancs. Si vous êtes prêt à oser regarder la suprématie blanche dans les yeux et à y voir votre reflet, vous serez mieux armé pour la déconstruire. Vous êtes né dans ce système. Peut-être à votre insu, il vous a doté de privilèges, d'une protection et d'un pouvoir immérité. En outre, il est conçu pour vous endormir et pour que vous ne soyez pas conscient des conséquences que ces privilèges, cette protection et ce pouvoir ont pour ceux qui ne vous ressemblent pas. Ce que vous avez reçu en vertu de votre blanchité coûte excessivement cher à ceux qui ne sont pas blancs. Cela vous écœure, vous fait culpabiliser, vous met en colère, ou vous frustre peut-être. Mais vous ne pouvez pas changer votre couleur de peau pour cesser de recevoir ces privilèges, pas plus que les personnes noires, autochtones et de couleur ne peuvent changer la leur pour cesser d'être en but au racisme. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. Je vous invite à remettre en cause votre complicité avec ce système et à œuvrer à le démanteler en vous et autour de vous. À qui ce travail est-il destiné ? Ce travail est destiné à n'importe quelle personne détentrice de privilèges blancs. Par n'importe quelle personne, je veux parler des personnes de n'importe quelle identité de genre, y compris non conforme, et par détentrice de privilèges blancs, je veux parler des personnes que l'on peut visuellement identifier à des blancs ou qui passent pour des blancs. Cela inclut donc les personnes biraciales, multiraciales ou les personnes de couleur passant pour blanches, avantagées par les systèmes imposés par la suprématie blanche, parce qu'elles ont la peau plus claire que les personnes au teint visiblement brun ou noir. Remarque importante pour les personnes biraciales, multiraciales et de couleur détentrices de privilèges blancs. Cet ouvrage vous est destiné aussi. Cependant, votre expérience sera très différente de celle des personnes blanches qui ne sont ni biraciales ni multiraciales, ou de celle des personnes de couleur. Le fait que vous bénéficiez de privilèges blancs parce que vous avez la peau claire, ou que vous passez pour blanc, ne signifie pas que vous avez vécu les mêmes expériences qu'un blanc. Un ou plusieurs de vos parents ou certains autres de vos ancêtres sont peut-être blancs. Ou peut-être que vous n'êtes pas blanc du tout, que vous êtes une personne de couleur au teint clair qui passe pour blanche ou est assimilée. Vos privilèges n'effacent ni ne minimisent aucunement vos autres identités ou votre vécu. Aussi, même s'il est important pour vous d'affronter grâce au travail que je propose le suprémacisme et les privilèges blancs que vous avez intériorisés, vous devrez adapter les questions pour qu'elles correspondent mieux à votre vécu en tant que détenteur de privilèges blancs qui n'est pas blanc pour autant. En fonction des privilèges dont vous bénéficiez, certaines pistes de réflexion vous permettront de creuser plus que d'autres. Certaines s'appliqueront plus particulièrement à votre situation que d'autres. Il est également important de savoir que ce travail fera émerger certains sentiments pénibles liés à l'oppression que vous avez intériorisée contre vous-même et vos identités marginalisées, ainsi qu'à l'oppression que vous avez subie de la part d'un système dont vous ne bénéficiez que dans la mesure où vous pouvez vous présenter comme blanc, être pris pour un blanc et être anti-noir. Ce travail remuera certainement en vous beaucoup d'émotions contradictoires, y compris de la honte, du désarroi, de la peur, de la colère, des remords, du chagrin et de l'angoisse. Il mettra en évidence certaines dynamiques qui vous ennuient ou ennuient à d'autres personnes parmi vos connaissances familiales, amicales, amoureuses ou professionnelles. S'il vous plaît, donnez la priorité à votre bien-être tout au long de ce travail. Ces difficultés ne doivent pas servir de prétexte à un manque d'investissement. Mais en même temps, respectez-vous et respectez les différents ressentis liés à vos multiples identités. Ce travail ne doit pas être un prétexte pour vous flageller. Servez-vous-en plutôt pour remettre en question votre complicité avec un système de privilèges conçu pour vous avantager, seulement dans la mesure où vous parvenez à vous conformer aux règles de la blanchité.
De quoi aurez-vous besoin pour accomplir ce travail? Vous aurez besoin de trois choses. De votre sincérité, de votre amour, de votre investissement. Votre sincérité. C'est votre sincérité qui doit vous guider. Soyez aussi honnête que possible. Interdit d'esquiver ou d'être superficiel. Plus vous serez sincère, plus vous approfondirez. Les bénéfices que vous tirerez de votre travail seront proportionnels à votre investissement. Si vous faites un travail sommaire, les bénéfices et par conséquent votre combat antiraciste le seront aussi. Si vous creusez, si vous êtes authentique, si vous appuyez là où cela fait mal, si vous dites la vérité dans toute sa laideur pour atteindre le cœur pourri de l'oppression qui sommeille en vous, vous serez métamorphosé et pourrez transformer le monde. Impossible d'insister assez sur ce point, ce travail n'est pas un exercice intellectuel ou mental. Quand on parle de racisme, on parle du quotidien des gens. Ce livre n'est pas un ouvrage de développement personnel conçu pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Si vous faites ce travail avec constance, il est probable que vous guérissiez certaines de vos blessures. Cependant, je veux que ce soit très clair, cela n'est pas l'objectif. Guérir et rendre leur dignité aux personnes noires, autochtones et de couleur, voilà le but. Ce travail, qui doit vous aider à être plus respectueux des personnes noires, autochtones et de couleur qui vous entourent, implique une intégrité et une sincérité totale de votre part. Quand vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous vous empêchez de progresser, vous privez les personnes noires, autochtones et de couleur de votre soutien, et vous démontrez que le démantèlement de la suprématie blanche en vous, et donc dans la société, n'est pas une priorité pour vous. Votre amour. C'est l'amour qui doit vous guider. L'amour est l'un de ces termes très difficiles à définir, mais dans le contexte de ce travail, voici ce qu'il signifie. Que vous vous impliquiez parce que vous croyez en quelque chose qui dépasse votre intérêt personnel. Parce que vous croyez que tous les êtres humains méritent dignité, liberté et égalité. Parce que vous recherchez la plénitude pour vous et pour le monde. Parce que vous voulez devenir un futur bon ancêtre. Parce que pour vous aimer, c'est agir. Parce que vous ne voulez plus nuire délibérément ou involontairement, aux personnes noires, autochtones et de couleur. Vous aurez aussi besoin d'amour tout au long de ce parcours, car lorsqu'il deviendra très difficile de dire la vérité, il faudra qu'un sentiment plus fort que la douleur et la honte vous pousse à continuer. S'appuyer sur la douleur et la honte pour parvenir à la métamorphose intérieure n'est pas une stratégie souhaitable ni viable sur le long terme. J'espère qu'au départ, c'est l'amour qui vous a conduit à ce travail. Je suis convaincu que c'est l'amour qui vous motivera à le poursuivre. Votre investissement. Ce travail exige votre investissement. C'est un travail pénible, impossible d'édulcorer la vérité. La suprématie blanche est un fléau. C'est un système d'oppression conçu pour vous avantager au détriment des personnes noires, autochtones et de couleur, et qui vous habite sous forme de pensées et de convictions inconscientes. Il sera forcément douloureux de l'examiner de près et de le démanteler. Vous aurez l'impression de découvrir qu'un virus vivait en vous à votre insu depuis des années. Et quand vous commencerez à le pousser dans ses retranchements, il ripostera pour se défendre et conserver sa place. Il m'est impossible de vous protéger de cela. Il n'y a pas de filet de sécurité, de raccourci, ni de voie de la facilité. Vous aurez envie de refermer ce livre, de prendre vos jambes à votre cou et de faire comme si vous n'aviez jamais entendu parler de moi. Vous aurez envie de m'accuser, de vous emporter contre moi, de me discréditer, de faire la liste de tout ce qui fait de vous quelqu'un de bien, qui n'a pas besoin d'entreprendre ce travail. C'est une réaction normale et prévisible. C'est la réaction provoquée par la fragilité blanche et le racisme anti-noir tapis en vous. Vous devez le comprendre avant de vous lancer. Comprendre que c'est à ça que vous devez vous attendre, et vous devez décider maintenant, avant de commencer, et le réaffirmer en cours de route, que vous allez vous consacrer à ce travail malgré tout. Vous devez décider à quoi vous allez vous raccrocher pour rester motivé, à la personne, à la promesse de combattre l'oppression et de rétablir la dignité des personnes noires, autochtones et de couleur, à la promesse de votre propre guérison, à la promesse d'être un meilleur ami ou parent des personnes noires, autochtones et de couleur. Et à vos valeurs personnelles et spirituelles. Décidez maintenant avant de commencer, ce qui va vous permettre de respecter votre engagement quand le travail deviendra difficile. Pour ma part, ce qui me motive, c'est mon investissement dans la vérité, l'amour et l'ambition d'être une bonne ancêtre. Mode d'emploi. Quelques conseils pour une utilisation autonome de ce livre tout au long de votre parcours. Écrivez un journal intime. Ce que vous avez entre les mains n'est pas un simple livre, mais une méthode de travail. La meilleure façon de l'appliquer est d'acheter un cahier dans lequel vous pourrez faire les exercices quotidiens proposés. Vous aurez envie de relire régulièrement vos réflexions et vos notes, qui vous accompagneront dans votre travail antiraciste tout au long de votre vie. Respectez votre propre rythme. Bien que ce programme ait été conçu comme un défi Instagram de 28 jours, vous n'êtes absolument pas obligé de respecter ce calendrier. Vous pouvez faire les exercices à votre rythme, aussi vite et aussi lentement que vous le décidez. N'oubliez pas, ce n'est pas une course, mais un cheminement. Ne généralisez pas. Quand vous répondez aux questions, ne généralisez pas à propos des Blancs. Ne parlez pas des Blancs comme si vous n'en étiez pas un, ou comme si vous ne bénéficiez pas de privilèges blancs. N'oubliez pas qu'il est question ici de vos expériences, vos réflexions et vos convictions personnelles, pas de celles des autres. La première fois, répondez aux questions dans l'ordre. Si vous faites les exercices pour la première fois, je vous conseille d'y répondre dans l'ordre où elles sont posées, car chacune découle de la précédente. Par la suite, reprenez les questions qui vous interpellent. Une fois le programme terminé, vous pourrez recommencer et vous y référer selon vos envies ou votre convenance. Vous pouvez recommencer depuis le début, par exemple, ou sélectionner un passage parce que vous voulez explorer tel ou tel aspect de la suprématie blanche auquel vous êtes confronté. Travaillez seul ou en groupe. Vous pouvez travailler seul ou suivre le programme avec d'autres personnes. Dans la partie ressources, à la fin de cet ouvrage, vous trouverez des précisions sur le travail de groupe organisé dans les cercles de lecture, moi et la suprématie blanche. Continuez à vous interroger. À mesure que vous avancez et répondez aux questions du mieux possible, approfondissez en vous demandant quand, comment et pourquoi. Par exemple, quand est-ce que je réagis ainsi? Quand ai-je ces idées? Quand est-ce que j'éprouve ces sentiments? Comment tel aspect de la suprématie blanche se manifeste-t-il chez moi? Comment cette idée ou ce sentiment m'avantage-t-il? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi ai-je cette conviction? Pourquoi est-ce que je crois que telle chose est vraie? Pourquoi est-ce que je m'accroche à ces convictions? Ces questions vous permettront d'explorer les strates inconscientes de la suprématie blanche enfouie en vous et d'approfondir votre travail. Bien-être, soutien et persévérance. Étant donné la difficulté de ce travail, il est important d'aborder le sujet du bien-être, du soutien et de la persévérance. Nombre de ceux qui ont relevé le défi Instagram d'un mois ont trouvé ce travail pénible au niveau physique, émotionnel et spirituel. Éradiquer la suprématie blanche intériorisée affectera votre corps, votre esprit et votre âme. Pour supporter ce travail, prenez soin de donner la priorité à votre bien-être. Je ne parle pas de manucure ou de rendez-vous au spa, mais vous devez penser à vous, vous écouter et vous ressourcer. Si vous êtes le seul parmi votre famille, vos amis et votre entourage à faire ce travail, vous risquez de vous sentir bien isolé. Contactez d'autres personnes qui suivent ce programme pour vous apporter un soutien mutuel. Attention cependant de ne pas solliciter le soutien et l'aide de personnes noires, autochtones et de couleur, membres de votre famille, amis ou collègues, pour vous aider à gérer ce qui vous attend, à moins qu'elles n'acceptent délibérément d'endosser ce rôle. Cet investissement émotionnel est extrêmement éprouvant pour elles. Si vous vous impliquez vraiment, vous ressentirez des émotions pénibles telles que honte, colère, chagrin, rage, apathie, angoisse et désarroi. Ne les évitez pas, ces émotions, réponses humaines appropriées au racisme et à l'oppression, sont une part importante du processus. En vous autorisant à les éprouver, vous ouvrirez les yeux. Vous retrouverez votre humanité, vous commencerez à comprendre que si vous ne ressentiez rien jusque-là, c'est parce que vous réprimiez une part de votre humanité pour prendre part à la suprématie blanche. Cette idéologie vous rend intentionnellement insensible à la peine causée par votre racisme. Au contraire, faire ce travail ravive ce qu'il y a de douloureux physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement à se rendre coupable de racisme. L'objectif n'est pas de vous humilier, mais de vous ouvrir les yeux. Vous aurez beau souffrir, avoir honte et culpabiliser en prenant conscience de votre racisme, votre malaise n'égalera jamais la souffrance que vous infligez aux personnes racisées. Alors, au lieu de rester bloqué et de vous sentir abattu, servez-vous de vos sentiments pour agir et changer. Parlez à un ami, un groupe de soutien, un thérapeute ou un coach pourra vous aider à gérer vos émotions et à avancer. La révolution n'est pas un événement ponctuel, a écrit Audre Lorde. Le travail antiraciste n'est pas un parcours limité à 28 jours. C'est l'affaire de toute une vie. Mon livre vous permet de lancer et de poursuivre ce processus. Mais vous devrez vous engager à combattre l'oppression sur le long terme. Cela n'a rien à voir avec le fait de lire un livre de développement personnel, de participer à une retraite spirituelle ou d'assister à une conférence sur le bien-être. À la fin, vous n'obtiendrez pas de récompense d'autre récompense que la satisfaction de savoir que vous faites ce qu'il faut. Personne ne vous félicitera de l'avoir fait. On ne vous décernera pas de médaille. Personne ne fêtera votre réussite. Vous devrez vous sevrer de votre dépendance à la satisfaction immédiate et apprendre à faire ce qu'il faut, même si vous n'en tirez jamais aucune reconnaissance. En outre, être en accord avec vos valeurs et faire en sorte de bâtir un monde meilleur aujourd'hui et demain est la plus grande des récompenses. Es-tu sûre, ma belle, de vouloir aller bien? Ce que j'en dis, moi, ma belle, c'est pour que tu sois sûre de ce que tu veux, que tu sois vraiment prête à être guérie. La santé, tu sais, ce n'est pas une mince affaire. C'est dur quelquefois d'aller bien. Tony Cat Bambara, les mangeurs de sel.